Jacques Jaume, vous êtes notre invité dans l'émission Visage d'Église. On s'intéresse au visage de l'homme du linceul de Turin. Qu'est-ce que le linceul de Turin nous révèle sur la passion du Christ ?
Alors, ce que nous n'avons pas dit à la dernière émission, c'est que ce linceul qui est exceptionnel, etc., par sa structure, présente quelque chose d'encore plus exceptionnel. C'est une image, alors mettons-le comme on dit actuellement, entre guillemets. Alors cette image, vous savez, elle est très floue, hein, on la voit de loin quand même. Moi je l'ai vue, on la voit de loin, mais c'est très très flou. Et par contre, le chevalier Pia, encore un chevalier d'ailleurs italien, à la fin du 19e siècle, a voulu photographier le linceul. Et en faisant ses photos, il s'est aperçu qu'en fait le linceul était un négatif. Et quand il a pris ses négatifs à lui, il a vu que c'était en fait des positifs. Alors ça a révolutionné, et à partir de là, les études scientifiques sont parties. En fait, cette image que l'on voit, parce qu'on voit par les yeux, par la vue, on voit des images. Mais quand on se réfère, ça c'est très important, avant de parler des plaies qui sont sur cette image, en fait, cette image est une empreinte en volume sur un drap plat. La structure intime sur les fibres et les fibrilles sont une oxydation des déshydrations. C'est-à-dire que les petites fibrines de lin ont été oxydées avec une déshydratation et d'une manière proportionnelle à la distance par rapport au corps. C'est-à-dire que c'est une image qui est en relief. Nous, on la voit comme image plane, mais en fait, elle contient un relief. C'est une image informationnelle. C'est-à-dire que c'est une image qui informe. C'est une image qu'on ne peut retrouver que par des voies informatiques. Alors, il y a des chercheurs qui ont refait le volume, mais les meilleures images, c'est mon ami Thierry Castex, qui est ingénieur, il s'occupe de rechercher des zones telluriques, etc., donc en utilisant, qui a recréé ces images. Donc, vous pouvez aller sur Internet, puisqu'à la radio, on ne peut pas les montrer. Vous cherchez linceul de Turin, Thierry Cartes, il est très ouvert, il communique ses images, on communique régulièrement, il a écrit un livre. Et donc là, vous verrez des images en tridimension du linceul exceptionnel. J'ai eu l'occasion avec lui de travailler sur ces images pour un congrès. J'ai découvert en fait que l'image que renferme le linceul, c'est un homme crucifié, mais recouvert d'un drap. C'est-à-dire que dans l'image, le linceul, c'est auto-imprimé, c'est auto-représenté. Nous avons l'empreinte d'un homme sous un linge. Alors là, il y a très peu de gens qui le savent. Et alors cet homme...
Ça semble évident, non ? Je comprends
non,
pas.
Non, mais il y a le linge, le support de l'information, c'est-à-dire qui est en lin.
Oui.
Mais l'image qui représente, c'est une empreinte, donc en trois dimensions.
Oui.
Et cette empreinte montre, quand on en fait une vraie image... un homme recouvert d'un linceul.
Donc le linceul porte sa propre image.
Le linceul porte sa propre image. Et cet homme montre les stigmates d'un homme crucifié. Et il faut bien savoir que nous connaissons absolument rien de la crucifixion au 1er siècle chez les Romains. Nous n'avons aucun document, à part Plot qui nous parle un peu dans ses comédies de crucifixion, etc. Mais nous n'avons rien. Sauf, peut-être, à Pouzzole, en Italie, on a découvert un contrat entre une structure privée qui organisait les crucifixions et des particuliers qui utilisaient ces gens pour crucifier des gens, notamment les esclaves. Mais la crucifixion qu'on croit être un supplice uniquement pour les esclaves était un supplice, en fait, qui remonte à la République romaine, c'est-à-dire une conception un peu légendaire de Rome, où on condamnait certaines personnes pour des crimes de lèse-majesté à être flagellées à mort ou à être crucifiées. On ne connaît pas. Et les archéologues, les historiens de l'art, les historiens juridiques ne peuvent pas définir. J'ai étudié profondément ces notions juridiques. On ne sait pas. C'est-à-dire qu'on ne sait rien sur la crucifixion. Tout ce qu'on sait de la crucifixion actuellement provient du linceul de Turin. On n'a pas d'autres. Alors, on a des images, mais à partir du... Là, je travaille sur une amulette du 2e siècle. Mais on a une image qui est floue, on n'a pas d'image. Tandis que là, c'est une information directe. C'est-à-dire qu'on a un homme mort, c'est un homme mort, qui a été crucifié. Alors, il y a des... au niveau médical, c'est imparable. C'est-à-dire, toutes les études médicales montrent que c'est imparable. Par exemple, les clous au niveau des mains. Toutes les iconographies représentées dans la paume des mains. Donc le docteur Barbet a démontré que ça ne pouvait pas être au niveau des mains, au niveau du poids, etc., que ça peut être au niveau du poignet, dans un espace qu'on appelle en médecine virtuelle, qui n'existe pas, mais qui existe entre deux os, qu'on appelle l'espace de Destot, entre différents os du poignet.
Oui, parce qu'il va soutenir tout le poids du corps. Dans la main, ça va se déchirer.
Voilà. Et donc, moi, j'ai proposé, mes travaux ont été publiés dans un magazine spécialisé en archéologie qui s'appelle Archéologia, donc qui est au niveau français, au niveau international, né premier, donc qui est accepté, où j'implique un mode de crucifixion. On est obligé de crucifier là pour respecter les arcs artériels au niveau des mains. Au niveau des mains, il y a deux arcs artériels qui sont très importants, qui sont les arcades supérieures et inférieures de la carde palmaire. Si jamais on les embranche avec un clou, il y a une hémorragie comme si on se coupe l'artère radiale.
Et donc la personne va mourir d'hémorragie.
D'hémorragie trop vite pour le supplice. Donc j'ai démontré que ça ne pouvait être qu'au niveau des poignets. Et on retrouve la même chose au niveau des pieds, qui est une crucifixion très particulière, parce que l'homme du linceul de Turin a participé à ses traumatismes et à ses supplices.
Je vous explique.
Il porte des traces de flagellation, qui fait que les études balistiques sur les fouets, d'un fouet particulier que utilisaient les Romains, qui s'appelle fragrum, qui veut dire frapper, étaient là pour tuer. Donc il a reçu l'équivalent énergétique de 4 à 5 balles de 357 magnum. Alors si vous les pointez sur un même endroit, vous tuez, vous traversez un moteur de voiture. Mais là, cette énergie a été dissipée sur l'ensemble de son corps. Il était flagellé au niveau du dos, au niveau des jambes, et il n'était pas attaché à une colonne comme la tradition le veut, mais les coups ont porté sur l'avant. Alors on frappait sur le dos pour pas tuer rapidement la personne. Si on frappait devant, au niveau cardiaque, il mourrait très rapidement par un traumatisme cardiaque.
Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Il n'était pas une colonne? Parce que s'il avait été une colonne, les coups auraient porté vers l'avant?
On n'aurait pas trouvé de traces sur la poitrine. Elles auraient été arrêtées par là. Il y a des traces sur la poitrine.
Oh,
il a reçu à peu près plus de 120 coups de flagrum qui se matérialisent sur son corps et sur le linceul par des petites traces d'haltères d'un centimètre de... qui sont comparables, mes travaux récents que je viens de faire, à de la chevautrine. Donc après cette flagellation, si on étudie, ça serait trop long de vous l'expliquer, la physiopathologie de cette flagellation avec tous les traumatismes que ça porte, les insuffisances rénales, cardiaques, etc., il était mort.
Et
donc après la flagellation, il était mort.
Oui.
Mais il s'est passé quelque chose qui fait qu'il s'est relevé. Et à ce moment-là, devant ça, on l'a crucifié. C'est-à-dire qu'il a voulu être crucifié. Moi, à sa place, je me serais laissé mourir. Il était mort. On peut le considérer médicalement qu'il était mort. Mais il n'était pas mort. Mais il s'est passé quelque chose qui fait qu'il s'est relevé. J'ai publié un article, j'ai fait des conférences à un congrès là-dessus. C'est-à-dire qu'il était consentant à ses propres tortures. Et donc, il a tout fait pour être crucifié. C'est-à-dire que sur le linceul, on voit des traces de portement du patibulum, qui est le côté traversant de la croix. Il est tombé, il a un genou qui est tuméfié. On a retrouvé du travertin sur ses pieds, qu'on retrouve qu'à Jérusalem. Et donc, il a porté sa croix jusqu'à être crucifié. Et il a été crucifié d'une manière exceptionnelle, c'est-à-dire les pieds l'un sur l'autre, collé à ce qu'on appelle la poutre qui est verticale, qu'on appelle le stipex, avec un clou très long. Et donc pour clouer comme ça des pieds, il a fallu qu'il soit consentant, c'est-à-dire qu'il a aidé ses bourreaux. Et ses bourreaux se sont moqués de lui en disant « mais puisque tu veux, on va te crucifier d'une manière encore plus particulière ». C'est comme la crucifixion de Saint-Pierre. Quand on étudie le mode de crucifixion, on se demande comment Saint-Pierre a été crucifié à la tête en bas. La seule solution, c'est qu'on l'a levé par les pieds avec un palan sur un poteau qui existait et on a étendu ses mains. Il n'est pas mort comme le Christ, il est sûrement mort d'un problème d'œdème cérébral. Tandis que le Christ est mort étouffé, parce que la crucifixion, par rapport à l'insulte de Turin, on l'a rapproché de supplices, notamment dans les camps de concentration que les Allemands faisaient subir à des prisonniers, en les pendant par les mains. C'est un supplice qu'on retrouvait dans l'armée autrichienne. Et donc on a des témoins qui ont montré comment les gens suspendus mouraient. Donc le Christ est mort comme ça, par insuffisance respiratoire et cardiologique. Alors, cette insuffisance et ce traumatisme cardiologique plus la flagellation a fait qu'il y a eu ce qu'on appelle une péricardite. Il y a un tissu autour du cœur qu'on appelle le péricarde qui est fait de deux tissus qui sont collés ensemble par ce qu'on appelle, c'est des séreuses. Hein, c'est comme si vous mettez un peu d'eau sur deux plaques de verre, si vous voulez, vous pouvez les soulever parce qu'un phénomène et donc ça sert. Avec un traumatisme du cœur, il y a eu une péricardite ailleurs qui a eu du liquide séreux, protéinique, qui s'est mis et qui a fait ce qu'on appelle une tamponade, c'est-à-dire que le cœur ne pouvait plus battre. Et le cœur s'est arrêté de battre normalement. C'est pour ça que sur le linceul, on voit que cet homme à droite a un niveau intercostal qui correspond à une manœuvre d'escrime romaine, a été empalé par une lance dont les dimensions de la lame correspondent aux lances romaines et qui a perforé le poumon droit pour arriver au niveau du cœur dans l'oreillette. À ce moment-là, en perforant le poumon, il devait y avoir un œdème pulmonaire aussi dû à la flagellation. Et en arrivant dans la séreuse s'est vidée, a coulé sur la lance. Et c'est l'eau. Pour ça que Saint-Jean nous dit qu'il a vu de l'eau couler. Et en deuxième lieu, le sang de l'intérieur du cœur a coulé. On retrouve exactement ça sur le linceul de Turin.
On voit cette trace d'eau
et de sang. On voit cette trace de liquide et de l'eau. Alors, ce qui est important, c'est que le linceul de Turin possède du sang.
Oui.
On a cru que c'était... Alors, il y a une propagande énorme contre le linceul de Turin. Je veux dire, c'est...
Il y a des gens qui passent... Il y a une image, mais il y a aussi du sang. C'est ça que vous me dites.
Il y a du sang.
D'accord.
Il y a cette empreinte et du sang. Et sous le sang, oui. Il n'y a pas d'empreinte. Donc, l'image... Enfin, l'empreinte qui a donné l'image s'est faite après qu'il y a eu le sang. Et l'homme qu'on observe est un homme mort.
Oui.
C'est-à-dire que l'image, l'empreinte, s'est réalisée sur un cadavre.
Oui.
C'est fondamental.
Un cadavre qui a eu le temps de se refroidir entre-temps et le sang d'arrêter de couler.
Des chercheurs trouvent des rigidités cadavériques parce que les membres sont pliés. Il y a d'autres signes qui montrent que ce n'est pas forcément évident. Mais la manière dont il était crucifié, il est évident que ses jambes se sont tétanisées et qu'il y a une certaine rigidité.
On se donne rendez-vous la semaine prochaine, Jacques Jaume, pour continuer de parler du linceul de Turin. Et maintenant, on va s'intéresser de savoir qu'est-ce qu'il nous révèle de la résurrection.